France Bleu RCFM. France Bleu.
Yeah.
Hal.
Hal T.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jean-Charles Marcilly. Bonsoir.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Tuc Tuc.
C'est
allons
pas grave.
Parler.
Ça, tout va bien.
Tout va bien. Bon. Musique ce soir.
Oui.
Puisque nous avons le plaisir de recevoir un musicien.
Et quel musicien?
Un arrangeur, un ingénieur.
Quel arrangeur et quel
du
ingénieur
son, qui a traversé donc les.
Quel traversier également.
Musical insulaire, mais pas seulement. Avec son talent, vous verrez que, eh bien, grâce à lui, la musique corse a pas mal évolué. Vous comprendrez cela dans un instant. Et puis, il va nous raconter sa vie un petit
entre
peu,
autres,
puisqu'on
ouais.
l'entend rarement.
Et puis, il va même jouer, j'espère.
Ouais.
Bon, on verra.
N'exagérez pas.
Si toutefois il a amené quelque chose, un instrument ou autre chose.
Quelque chose. Un triangle.
Pourquoi pas.
Une gamme.
Un bâton de pluie.
Ou un ocarina peut-être.
Ouh là là. Allez.
Qui est là?
Bonsoir, qui est là?
Je sais plus comment il s'appelle.
Comment je m'appelle?
Ouais.
Christophe McDaniel.
C'est un honneur, un plaisir et une immense joie de vous avoir à nos côtés ce soir durant une heure. Merci.
C'est un très grand honneur d'être accueilli par Marie Brandzine et, et mon grand ami.
Marcilly. Jean Marcilly qui est avec nous.
En tout cas, on va passer une heure, on espère pouvoir l'entendre jouer, également peut-être chanter. Enfin, on verra, on va essayer de voir un petit peu avec Marie et vous, Christophe, bien évidemment, quelles sont les grandes étapes de votre vie.
Christophe, vous travaillez à France 3 Corse, Viasté, là, depuis pas mal d'années. Je crois que dès les années 80, vous faites vos premières piges, comme technicien du son, comme ingénieur du son à l'époque.
Je sais pas ce que ça s'appelait, opérateur prise de son.
Oui.
Je sais même pas comment ça s'appelait à l'époque.
Oui, OPS, c'est ça.
OPS.
Mais bon, peut-être que ça a changé, parce que là, les premières piges, c'était dans les années 80, c'était toujours, je crois que c'était dans RTF, toujours. C'était à la résidence des Pins, il y avait la radio, et la partie télé, on faisait...
C'était Ajaccio alors, ça.
Hein, Ajaccio. Oui. Exactement, on faisait 2 minutes dans le journal de Marseille, en télévision.
Vous vous souvenez comment ça a commencé? Comment vous vous retrouvez là, à la résidence des Pins?
Alors, comment je me retrouve là? En réalité, je travaillais en studio musique, donc chez Antoine Léonard, à l'époque, les
chez
studios Rigaud. Et Antoine Léonard, il y avait un petit contrat avec la télévision. Et comme je travaillais chez lui, donc j'ai commencé à faire des piges à France 3. Enfin, c'est FR3, je ne sais plus comment ça s'appelait.
FR3,
oui.
Voilà.
Et ça n'a plus jamais cessé.
Non, après, j'ai été titularisé beaucoup plus tard. Parce que bon, comme j'étais un peu... Un paladin où je me baladais partout. J'avais pas de contrat de CDI.
Mais vous n'étiez pas accordeur de piano, enfin vous répariez.
Alors j'ai travaillé, oui, mais avant d'entrer
chez Blanc, non?
Ouais, c'est ça.
Ah oui,
chez Blanc Musique. Ouais. Je vois que Jean-Charles est très bien renseigné.
Ben oui.
Mais ça, c'était avant Rigord, ou alors?
Oui, c'était juste après mes études de musique. En réalité, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, donc il fallait que je travaille. J'ai fait une formation. Je voulais faire une formation de facteur piano, et j'ai travaillé donc 2 ans chez Blanc Musique.
En apprentissage, donc.
En apprentissage, oui, ouais. Si on veut.
Alors, c'est intéressant votre parcours musical, puisque dès l'âge de 6-7 ans, vous prenez des leçons de piano. Ça se passe à Bastia.
Oui, oui. À l'immeuble Pouillon, chez Mademoiselle Noyer, qui était l'organiste de Saint-Jean.
Et oui, absolument.
Voilà.
Et puis, on vous envoie, comme c'était souvent le cas, des jeunes garçons, non pas turbulents, mais bon, vifs.
Plein de vie, on va dire.
Plein de vie. On décide de vous envoyer à Ajaccio, chez les curés.
C'est ça.
Et alors là, vous faites la rencontre de Pierre Nouveau.
Ah oui, bon, j'ai fait la rencontre de plein de gens, en réalité.
Entre autres,
Pierre Nouveau, oui.
Qui est un super musicien, qui est chef d'orchestre de l'orchestre Bouglione, par exemple.
C'est au Cirque d'Hiver qu'il est chef d'orchestre, oui.
Et alors là, qu'est-ce que vous faites de la musique, évidemment ?
Eh ben oui, bien sûr. Bon, avec mon frère, on faisait beaucoup de musique. Hein. À la maison, on avait même fabriqué une grosse caisse avec un fût de
bière.
Un fût d'huile de moteur. Là, vous savez, les gros fûts qu'il y a dans les garages.
Ouais.
Mon père avait bricolé une pédale et on avait une caisse claire. Un charlet et cette espèce de bidon.
Mais qui était musicien à la maison, mis à part
tout le monde. Tout le monde était musicien. Oh, bah, mon père jouait du piano. Déjà, et puis ma mère est d'une famille de musiciens. Sa sœur Gisèle Gallet a été formée à Paris. C'est une grande voix de l'époque, quoi. Les voix d'or, elle est mariée à un ténor, donc. D'ailleurs, ils ont eu Doumé Gallet, que tout le monde connaît,
votre cousin Germain.
Voilà. Et bon, nous, on est du Bose par mon grand-père Sansonnet, donc avec des gens qui chantaient aussi, qui chantaient dans les églises, etc. Bon, voilà, les chats font pas des chiens. Et les chiens font pas des chats.
Et les musiciens, des musiciens.
Ouais.
Voilà.
Tous les Sansonnets tiens, chantaient un peu, ou en tout cas s'intéressaient à la poésie, au théâtre.
Oui, bon, ceux du Beauce, c'était plus le chant. Après, les Sansonnets, je ne sais pas si ceux de Venaco, c'est la même souche que nous, mais il y a des cinéastes, des musiciens, des chanteurs. C'est une grande famille, Sansonnets.
Vous ne pouviez pas passer à travers la musique. Et puis après, ça va continuer. On racontera l'histoire
on va la dérouler.
De Christophe McDaniel, puisqu'il partira à Avignon chez les Jésuites. Ça ne va pas cesser.
Mais Renaud Vredini.
Et puis là, il y aura encore.
Et toi, un peu turbulent, peut-être aussi.
Non, pas trop. J'étais très sage, moi.
Et puis là, il y aura encore des rencontres musicales qui vont former votre jeu de musicien, vos désirs et puis votre destin avec la musique. Marc-André Castellani, bonsoir.
Bonjour.
Merci d'être là.
Un autre musicien.
J'avais envie que vous veniez parler un peu, comme vous le faites si bien, de musique et notamment du travail de Christophe McDaniel.
Bon, je ne pouvais pas laisser passer Christophe McDaniel dans cette émission sans passer, sans dire deux mots. Qui est Christophe McDaniel musicalement, cosa portado a musica gorsa? Christophe McDaniel, il faut commencer par dire que c'est quelqu'un de très humble, de très discret, qu'on entend très peu. Ce qui a fait que, peut-être que son nom s'est effacé à côté de celui d'autres, mais pourtant son influence, elle est très importante. Ça commence, bon, Rial, Suastoria Gunishim, ou cette espèce de groupe qui produisait une musique assez virtuose, hein, assez perchée aussi, assez 70s.
Psychédélique, vous diriez?
Je dirais pas psychédélique.
C'était de la fusion.
C'était de la fusion.
Ah, avec des morceaux de 17 minutes, quand même.
Voilà, c'était quelque chose c'était une musique très, extrêmement avant-gardiste, quoi, en musique corse. Avec des citations de Stravinsky,
des paroles de
Jacques Thiers, C'était vraiment un univers extrêmement riche. Et puis, il rentre dans Canto Bobulo Gorso. Et là, on voit que la musique de Canto Bobulo Gorso commence à pouvoir avoir un billet d'avion pour pouvoir voyager. Je pense que c'est ça. À partir du moment où il rentre, il me semble, sur Tiamo Boesi, Azomis Mayumik. Ensuite, on voit une influence très marquée sur Chedino, avec des morceaux comme Malconcilio, comme Un Soffio di Libertà, qui commence à avoir, on dira, la marque du maître. Ensuite, en 84, quand Canta s'achève, il arrive sur les albums solo de Jean-Paul Poletti d'un côté.
Donc c'est le professionnalisme, vous diriez?
Je dirais que ça a apporté une époque où, tu l'as dit, là, c'était très sincère, la musique corse très mélodique également. Michel a dit « Ourdé, loin !» Tu l'adhères. Je pense que Christophe McDaniel a apporté beaucoup de professionnalisme, d'harmonie, d'ouverture musicale, de curiosité. On a des morceaux comme « Isula Idée », ensuite, qui arrivent, on a des morceaux comme « Corsica ». Et je ne sais pas si aujourd'hui les gens peuvent mettre un nom derrière cette professionnalisation de la musique corse, mais c'est sûr que Christophe McDaniel y est pour quelque chose. D'ailleurs, je vous ai préparé, semble, un petit extrait. Parce que je trouve, voilà, que ça fait partie de ces des moments, il nous a offert des moments de grâce. Des moments de grâce, en particulier, peut-être sur les
grands cartons. Toi, tu te tais, hein, tu dis rien, hein.
Sur les grands cartons de Jean-Paul Poletti, de Canta et de Pedro Guelfucci, avec ces deux disques Memoria et Corsica, qui sont pour moi des... Peut-être ce qu'il y a eu de plus abouti en musique corse. Alors, il y a un petit extrait de Memoria de la Technique, si vous pouvez nous l'envoyer. Guitare, donc,
on reconnaît
piano.
Tout de suite l'écriture.
Alors, l'écriture
de Christophe McDaniel.
Voilà. Et de Piero Santucci pour le texte. Juste
le texte,
une parenthèse.
Absolument, vous faites bien de le dire.
Le piano de Christophe, la guitare de Freddy Olmeda, quand même, avec ce duo qui musicalement est extrêmement abouti. Et puis, je vais quand même dire deux mots à titre personnel, parce que bon, Christophe McDaniel, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'honneur de bosser beaucoup.
Et vous bossez encore, hein.
On bosse beaucoup ensemble. Voilà, c'est un père musical. C'est quelqu'un
avec
qui, sans ménagement, vous tire vers le haut, mais avec une bienveillance absolue. Et je lui dois vraiment une reconnaissance.
Ça, c'est l'école
absolue.
Jésuite, Jean-Marc André.
Très grand monsieur.
Je suis très dur, des fois.
Je suis vraiment heureux que vous l'ayez invité. Voilà.
À Ringradia, Marc André.
Ringradia, Marc André.
17h16 sur RCFM.
Toc-toc, l'invité mystère.
Alors, permettez-moi de saluer l'invité mystère qui, évidemment, a patienté jusque-là et je l'en remercie. Merci beaucoup. Bonsoir, invité mystère.
Bonsoir.
Ça fait rire.
Invité... Mais oui, parce que votre voix est divine ce soir, invité mystère. Nous allons vous poser des questions, car Christophe McDaniel va avoir la lourde tâche de trouver qui se cache derrière cette petite voix métallique.
Même Christophe peut poser des questions.
Non, c'est surtout Christophe.
Nous,
on va aider Christophe.
Ah d'accord, pardon.
Christophe.
Oui.
Vous pouvez poser des questions à l'invité
pour
mystère.
Pour découvrir l'invité mystère.
Es-tu un homme ou une femme?
Je suis un homme, enfin je crois. Hein.
Comme ils disent.
Mm-hmm.
Je sais pas.
Es-tu en Corse ou sur le continent ou
En Corse. Bien sûr.
Ah, bien sûr.
Bien sûr.
Quand on saura de qui il s'agit, on comprendra, mais là...
Es-tu Bastiais ou Ajaccien?
Je suis Bastiais.
Ah, ça resserre un peu le...
Légèrement. Hein. Mmh. Je sais pas, est-il musicien, pas musicien?
Tu es musicien ou pas musicien? Ou acteur?
Je suis musicien. Ah, ouais.
Bonne question.
Alors, tu joues de la guitare?
Oui, je joue de la guitare.
Parce qu'il y a beaucoup de guitaristes. Hein.
Mais ça réduit encore, c'est bien. Mmh. Est-ce qu'il chante?
Tu chantes ou pas, oui?
J'ai chanté, mais très peu, parce qu'il fallait sauver le groupe. J'étais obligé de chanter, mais j'ai pas manqué.
Il fallait sauver le groupe.
Ah oui.
Donc tu fais partie d'un groupe.
De plusieurs, même.
Je faisais partie, ouais, d'un, bon, plusieurs. Hein.
Vous savez comment c'est, hein, quand il y a un bon guitariste, voilà. Il est très sollicité,
bon,
forcément.
Freddy.
Freddy Olmeda, bonsoir.
Ouais. Et moi.
Bon guitariste tout de suite.
Bon guitariste, tac, Freddy. Ouais.
Non, ben, c'est un vieux compagnon. C'est mon frère.
Ouais, moi aussi, c'est pareil. C'est bizarre ça. Déjà, pour le talent, pour le monsieur, comme j'ai dit, il m'a recueilli au Biberon, au Bichoco. J'avais 17 ans au théâtre, je jouais avec Illy Gianni. Lui, il était déjà avec Pedro Guelfucci. Voilà, donc, je peux dire, Pierre, puis on a passé beaucoup de temps. Hein, on a dû passer, encore maintenant, hein, puisque c'est.
Quel genre de musicien est-il, Freddy?
Très très bon, parce que bon, je crois que Marc-André, il a fait un bon résumé, c'est un monsieur, c'est un pilier de la chanson corse, et puis vous savez, on parlait aussi, c'est quelqu'un qui a le concours d'arrangeur. En Corse, qui ont le concours d'arrangeur, ils sont pas beaucoup, je crois qu'ils sont deux ou trois, lui, il en fait partie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a appris l'harmonie et qu'on, il suffit qu'on écoute la plupart de ses morceaux.
Je conseille le traité de Dubois à tout le monde, mais il fait 400 pages, donc, je ne suis même pas allé au bout.
Ouais, mais moi je suis un privilégié, voilà. J'ai passé ma vie, enfin 30 ans de ma vie à ses côtés, parce qu'on a joué avec beaucoup de monde et on joue encore avec beaucoup de monde.
Bien sûr, ça continue. Ça continue. Vous aviez fait un travail formidable autour des plus belles chansons corses qui avaient été.
Oui, c'est vrai. C'est grâce à lui. C'est grâce à ce monsieur.
Non, c'est grâce à Freddy aussi. Freddy, c'est un guitariste hyper talentueux.
Racontez-moi cette aventure, parce que ça a dû être un casse-tête pas possible.
Laquelle aventure? Parce qu'il y en a beaucoup.
Ces arrangements pour les plus belles chansons corses qui avaient été choisies par.
Le public.
Par le public.
Les auditeurs.
Ah, oui, d'accord.
Avec France 3 Corse VST.
D'accord, oui. Ben, c'est facile, hein. Bon, moi, je sais pas. Je sais pas qui m'avait contacté tout ça. J'ai dit, bon, moi, mon équipe, c'est mes vieux potes, c'est Freddy, Ange, Gérard Pianelli, qui est moins vieux,
Ange
vieux
Thor,
pote. Hein. Oui, Ange Thor. Gérard Pianelli, qui est un super batteur, qui est plus jeune, lui, mais bon, voilà. Et on avait fait comme ça, quoi. Mmh. Pour moi, c'est des équipes de luxe.
Freddy, quand vous l'entendez, vous le voyez jouer pour la première fois, vous vous en souvenez, vous l'aviez repéré ce jeune garçon?
Absolument, absolument.
Non, je dis Christophe, Christophe.
Écoutez, en plus j'étais timide, j'étais dans mon coin et lui il était en façade, parce qu'en plus il faisait le son.
Ouais.
Donc il fait toutes les voix, puis bien entendu il arrive à moi et il me dit s'il te plaît, tu peux faire ta voix. Et moi je fais là, j'avais une voix aiguë, voilà, un gamin de 17 ans. Et là, il me regarde et me fait « Tu vas chanter comme ça ?» Alors là, j'ai pris de croire que
ça manque confiance.
Bon, merci Freddy pour l'anecdote. Mais moi, la question elle était pour Christophe. Est-ce qu'il t'avait repéré en réalité?
Surtout pour
Freddy. Freddy, oui. Tout jeune, c'était un très bon guitariste. Hein, et il a un truc à lui.
Hier, je veux dire, quand on a la sortie de Is, là, voilà.
Non, mais même avant, si tu veux, avant, comment dire, Freddy, il a quelque chose. C'est pas seulement un guitariste très rapide ou quoi que ce soit. Freddy, il a une âme de guitariste. Il a une âme dans sa guitare.
Puis il a une âme de rocker.
Pas seulement, Freddy sait tout jouer, c'est incroyable.
Aussi.
Il sait tout jouer. Mais bon, il est bon en rock, bien sûr.
Ouais, c'est
moi, j'étais bon en rock, attention, mais j'en fais plus beaucoup.
Freddy Olmeda, il fait partie de ces musiciens. Dès les premières notes, on sait que c'est lui qui joue.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est magique. Ça, c'est absolument magique.
J'ai bien fait de m'appeler.
Oui.
Compliment, c'est un compliment, merci.
Non, mais c'est la seule émission du paysage radiophonique qui fait du bien. On dit du bien de tout le monde est heureux.
Non, on invite que les gens qu'on aime.
Effectivement, voilà. Donc,
c'est une bonne manière de pouvoir dire du bien. Freddy, ça continue le tribute à CDC ou pas?
Pour le moment, non, parce que c'est difficile d'avoir tout le monde sous la main, c'est un peu. Et puis bon, voilà, avec Christophe, on a beaucoup de boulot. Moi, il y a mon album qui est presque fini.
Ah,
c'est une info, ça.
Voilà,
c'est
donc ça. J'ai quand même pas mal de travail. Donc,
on est en train de faire un album super, les gars.
C'est vrai, au studio Gecko?
Oui, oui.
Mais au studio Gecko, d'ailleurs, c'est moi qui ai trouvé le nom. Gecko.
Oui, les Gecko, les Varans, tout ça, enfin tout ça c'est lié.
Oui, ça c'est votre univers.
Oui, parce que quand j'étais petit, en fait, on répétait dans la cave avec EP, dans un bunker, il y avait des Gecko. Moi j'avais peur de passer, et à un moment donné, c'est vrai que j'étais jeune, j'ai voulu m'en débarrasser. Lui m'a dit, si tu touches les Gecko, tu vas voir. Et depuis, Gecko, ça nous a toujours suivi, puis il a appelé son studio Gecko.
Heureusement qu'il n'y avait pas des rats, hein. Ouais, le studio rat.
Toby.
Ça aurait pu, pourquoi, hein. J'ai rien contre Toby.
Merci beaucoup, Freddy Olmeda, d'avoir été avec nous ce soir.
C'est moi qui vous remercie à tous. Et puis, Christophe, gros bisous. On se voit demain ou après-demain au studio. J'embrasse mon poulet.
Et vous viendrez au micro d'RCFM pour présenter l'album.
J'espère. Merci, Marie.
Allez, bonne soirée. Ciao.
Bonne soirée, merci.
Quel plaisir de jouer avec des musiciens comme celui-ci, vous le disiez il y a un instant.
Freddy, c'est quelqu'un de très important pour moi. C'est comme un frère, un petit frère. J'en ai eu quelques-uns, des petits frères, des guitaristes, des petits frères guitaristes. Il y a eu le cousin de Freddy, François Pêche.
Bien sûr.
Avec qui j'ai passé pas mal de temps.
Les frères Rennes.
Vous avez fait même des disques ensemble. Hein.
Oui,
bien sûr.
Et, oui, bon... Les frères Rennes, c'est à Avignon, donc les frères Rennes, c'est...
On reprend le fil, c'est intéressant, ouais. On va revenir
c'était à... des, c'est le guitariste et le batteur du groupe Rial, que j'avais rencontré à Avignon, donc chez les Jésuites, où on faisait beaucoup de musique, on a commencé à faire du rock à l'époque. On jouait ensemble, les Jésuites nous avaient donné une salle dans un vieux bâtiment, donc c'était le rendez-vous de tous les...
Les rockers endiablés.
Vous faisiez du rock, vous jouiez du rhythm and blues.
On faisait un peu de rock, de rhythm and blues.
Le jazz commençait à pointer le bout de son nez.
Oui, le jazz, surtout le père de Gilles Olivier Rennes était un très bon jazzman. Il jouait du violon, il était peintre. Et c'était un phénomène, quoi. Il jouait du violon, mais entre les jambes, comme on joue un violoncelle. Et il jouait le jazz merveilleusement bien. D'ailleurs, il était ami avec Eddie Louis, avec des gens comme ça, qui venaient souvent chez lui, et ça jouait, quoi.
Mais vous étiez pas mal, parce que vous avez quand même fait des scènes, comme le Chêne Noir.
Oui, on a fait... sur Avignon, c'est une ville très... Très,
très dynamique au niveau de la culture, toujours aujourd'hui.
Culturel, oui. Et donc, il y avait plein de petits théâtres, quoi. Donc, le Chêne Noir, on avait fait le Chêne Noir plusieurs fois. Bon, c'était un peu un rendez-vous de tous les musiciens, quoi.
Qu'est-ce que vous écoutiez à ce moment-là?
Alors, qu'est-ce qu'on écoutait à ce moment-là? À ce moment-là, c'était plutôt les Floyd.
Les Beatles?
Santana, les Beatles. Ah, Beatles, très important.
Vous voulez chanter les Beatles? Vous voulez chanter même bien. Hein.
J'espère.
Ah oui.
J'espère. Allez.
Non. Pas j'ai déjà fait une fois à la radio. Je ne vais pas recommencer.
On peut chanter des louis.
Non, alors, juste un. Ouais, quoi alors, par exemple?
Oui,
je ne sais rien.
Sans forcément chanter, mais un.
Yesterday. Ah, ouais. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday.
Oh la classe, merci. Ah, merci. Et puis, il y a la claque, la grosse claque, puisqu'à la maison, vous le disiez, tout le monde était musicien, on écoutait beaucoup de musique classique, du Bach, par exemple, des choses assez...
Alors, ma grosse claque musicale, c'est quand j'étais étudiant en musique. Un jour, on décide de faire une analyse avec notre professeur, Guy Manvaux, qui était un phénomène. Et on analyse...
Ça, c'est à Pau ?
C'est à Pau, oui. Ouais. J'étais étudiant en musique à Pau, oui. Et on analyse le Sacre du printemps, et là, j'ai dégusté. J'ai pris une claque violente.
D'Igor Stravinsky ?
D'Igor Stravinsky.
Alors, pourquoi vous prenez une claque alors que vous êtes habitué à entendre beaucoup de musique et de la musique classique ? Parce que d'un coup, vous entendez de la musique classique, mais contemporaine.
Exactement, parce que... la musique classique que j'écoutais jusqu'à présent, mon père écoutait beaucoup de Tchaïkovski, des choses comme ça... J'avais été au biberon de Bach, de choses de Mozart, etc.
De Chopin.
Et d'un seul coup, je m'aperçois que ce mec-là, il a inventé des trucs mais incroyables, quoi. Rythmiquement, c'était complètement fou. Les sonorités, il y avait une recherche sonore absolument phénoménale. L'utilisation d'instruments comme les tambangs, les gongs, et puis les cuivres, ça part dans tous les sens, quoi, c'est extraordinaire. Et des notions d'harmonie complètement secouées. Donc, moi, je suis tombé amoureux de cette musique-là, quoi.
Ça n'a pas été facile pour lui, puisque lorsqu'il écrit ce ballet, hein, puisque c'est un ballet, avec Nijinsky, il est hué. Les gens se moquent.
Et il a même failli aller en prison, je crois.
Il a failli aller en prison. Il a été en maison de repos pendant quelques mois après ça. Il y a Ravel, il y a Debussy dans la salle. Et les gens se moquent dès les premières notes. Donc c'est l'horreur. Et un an après, ce sera le succès phénoménal.
Je ne sais pas si c'est un an après, c'est beaucoup plus tard, non, qu'il a eu vraiment du succès.
Moi, j'ai lu un an après, mais attention, ouais, ça peut être des bêtises. Hein. En tout cas, il se remettra. Et puis aujourd'hui, c'est l'un des compositeurs les plus phénoménaux.
Et puis c'est un modèle,
siècle,
ça reste un modèle pour beaucoup de jazzmen, pour beaucoup de gens qui font de la musique un petit peu évoluée, quoi.
Alors, il a été dirigé par les plus grands. Lorsqu'on lui posa la question, quel est le chef, selon vous, qui dirige le mieux le Sacre du Printemps, il répond Pierre Boulez plutôt que Karajan ou encore Bernstein.
Karajan, il n'aime pas trop Christophe, je crois.
Non, ni Boulez d'ailleurs.
Un peu,
mais Bernstein un peu plus. Du coup, pour ne pas faire de jaloux, j'ai choisi quelqu'un d'autre.
Ah, yes.
Bon, voici le Finlandais Mikko Frank avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, extrait du concert des 80 ans de l'Orchestre de Radio France en 2017, en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio. Commencement, donc le début du Sacre du Printemps, dirigé ici par Mikko Frank avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un petit peu en danger, je glisse comme ça au passage. Et Et oui.
Le sou, toujours les sous.
Voilà, si vous pouviez voir le geste de Christophe McDaniel, qui est notre invité, jusqu'à 18h. Et oui, c'est une question évidemment d'argent, et c'est bien dommage, puisque là, ils célébraient leurs 80 ans en 2017. Expliquez-nous la complexité, la beauté de ce que nous venons d'entendre, en quelques mots.
Expliquez.
Est-ce que ça s'explique?
Ah, c'est assez fou, quoi. C'est une musique folle. Il y a des rythmes en 5-4, en 7-4.
Ça veut dire quoi, ça? Parce que ceux qui ne sont pas initiés, 7-4.
On n'est pas dans les mêmes rythmes.
Voilà.
Donc...
Il y a les parties de percussion qui ont un rythme, les parties de cuivre un autre, et les violons un autre. C'est hallucinant, comment il a écrit ça. C'est un fou, quoi.
Alors, on disait tout à l'heure que vous avez dans votre musique, dans vos compositions, parfois fait quelques citations de Stravinsky, mais pas seulement, c'est vrai ?
Oui, ben, à l'époque de Rial, un petit peu, non ou pas ?
Je pense pas qu'il y ait eu des citations de Stravinsky, non.
D'autres, non. Peut-être ?
Non, mais bon, après, on a tous des grosses influences, donc quand on compose...
Oui, alors en fait, c'est pas des citations, mais c'est
sûr, voilà, que quelquefois, il y a des choses...
Ah, c'est du plagiat, c'est pas des citations.
Voilà, exactement.
Ah, le mythe s'effondre.
Je suis un gros plagiateur.
D'Igor. Stravinsky. Bon, il y en a d'autres, je sais que le Requiem de Forêt, par exemple.
Ah, j'adore, ça, c'est fantastique.
Puisque vous êtes sensible.
C'est d'une grande beauté.
Évidemment, aux voix.
Et d'ailleurs, comment dire... J'écoutais beaucoup Forêt et cette intro de violoncelle du Requiem qui est fantastique. Et ça m'a un petit peu inspiré pour faire une introduction à Corsica, j'avoue. Bon, c'est pas la même chose, mais l'ambiance, c'est un petit peu ça que je voulais rendre. Parce que j'ai trouvé une espèce en même temps de profondeur, c'est triste. Mais il y a une espèce de quiétude absolument extraordinaire dans ce
une force tranquille, quelque chose comme ça.
Et moi, ça m'a transporté. Si le jour où je meurs, si je peux voir ça, c'est bien.
Ne dit-on pas que le violoncelle est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine ?
On le dit, oui. On le dit. Moi, j'adore écrire pour violoncelle. C'est un de mes instruments fétiches, quoi. Quand j'ai besoin d'un instrument qui chante, qui parle, c'est une bonne solution.
Toc toc, c'est son année.
Alors, est-ce que votre année, ce serait l'année de la sortie de Corsica ? Est-ce que ça a bouleversé quelque chose ? Est-ce
91,
que...
de mémoire, ou une bêtise ? Ou un peu plus... Ouais, 91, je crois.
Alors, moi, les dates...
Oui, parce qu'après, en 93, vous aviez eu le disque d'or au Québec, donc c'est sorti un petit peu avant, en 91-92. Ouais,
alors, pour moi, la date la plus importante, celle qui m'a le plus marqué, c'est la naissance de mon premier enfant. C'est pas la musique, c'est pas une date musicale, c'est la naissance de mon premier fils.
Sauf que c'est lié à la musique, parce que vos enfants sont musiciens tous les deux.
Paul et Antoine,
Allez savoir pourquoi, l'un est ingénieur du son, l'autre est cadreur, enfin ils sont dans le même milieu.
Et musiciens tous les deux.
Et musiciens tous les deux. Il y en a un qui a un groupe de heavy metal, quoi, de hard rock.
Non, pas de heavy metal, c'est du punk rock.
Ah, du punk rock, ouais.
Du punk rock.
The Sobers.
C'est ça. Allez, écoutez tous The Sobers, c'est magnifique.
Justement, vous êtes consulté pour leur musique.
Bon, par contre, The Sobers, c'est très, très... Ils sont pas sobres du tout, quoi.
Malgré le nom, ils sont pas sobres. Ils vous consultent, Polo et Antoine.
Ah, il me fait jouer sur ces trucs des fois.
C'est vrai ?
Ah oui. J'ai fait une intro de piano une fois. Il dit, ouais, tu fais un truc, tu vois, très bluesy, comme si c'était dans une boîte de nuit et tout. Et puis à un moment, le piano, il tombe par la fenêtre. Voilà. Alors, j'ai fait ça.
Et Antoine, qui est guitariste et chanteur également.
Oui, aussi, oui.
Chante bien, Antoine. Ouais.
Et puis, il y a Guillaume aussi, qui est guitariste.
Guillaume, le fils de ma compagne, qui est, bon, c'est un peu comme mon fils, et qui joue très, très bien de la guitare.
Mais alors, est-ce que ça signifie... Parce que s'il n'y avait pas Guillaume, on pourrait dire que c'est une histoire de gènes, mais là, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a un bain. Pas linguistique, mais un bain musical.
Linguistique aussi, proème, hein. Proème, on y parle notre lingua. Quitidelli, Cunelli. Bon, avec vous, je vais parler français.
Mais vous faites comme vous voulez. Hein.
Enfin, comme, vraiment,
comme,
pas, ouais.
comme vous voulez.
Non,
et donc, un bain musical également.
Oui, oui.
Mais bon, pas une obligation non plus ou...
Ah non, obligation. Il n'y a rien d'obligé. Dans... Moi, je ne suis pas un obligateur.
Oui, mais vous avez le studio à la maison, enfin sous la maison,
voilà,
donc il y a des instruments partout, donc j'imagine que oui, comme dit Marie, il y a ce bain musical en permanence.
Mais évidemment, ça, ben, ils le vivent depuis petit, donc c'est pas étonnant qu'ils tombent là-dedans.
Vous l'avez vécu vous aussi hein. À travers vos parents aussi, donc.
Je me rappelle, mon fils aîné, donc Polo. On faisait les concerts, on faisait les tournées avec Gianpaolo Buletti, et il y avait ma femme qui faisait l'éclairage. Et il avait un couffin à côté de la table de mixage. Il s'est oublié, il avait un mois. Hein. Il dormait à côté de la table de mixage. Dès que la musique s'arrêtait, il se réveillait, il commençait à manger.
Comment voulez-vous y échapper?
Ouais. Parce que pour la petite histoire, quand même, bien sûr, il y a eu Rials, on en parlait, mais vous avez croisé la route de Jean-Paul Poletti et donc de Kant. Et puis ensuite, vous avez travaillé avec Jean-Paul Poletti pendant des années, et puis avec Pedro Guelfucci.
Et le groupe Octobre.
Et le groupe Octobre.
Quelle expérience aussi.
La Pagé, ouais. Octobre, on avait fait aussi. Faut la voulette à l'époque, avec les deux Padrides, c'est ouf. J'ai fait pas mal de choses.
Et puis vous avez enregistré beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes groupes aussi.
Aussi
et vous les avez beaucoup aidés, ça vous le direz pas, parce que tous financièrement, on n'avait pas tous les moyens de sortir un album. Et
quand ils venaient me voir, ils me demandaient combien c'est la séance de studio et tout. J'ai dit, qu'est-ce que tu as comme budget?
Non, mais ça fait partie de la générosité du musicien,
oui,
voilà.
Non, bon, après, c'est tous les jeunes, il faut les aider, c'est pas possible autrement. Moi, les jeunes qui veulent faire de la musique, il faut les aider, c'est normal.
Il y a ce grand philosophe, Monsieur Serres, qui vient de nous quitter et qui a hurlé « Je vous emmerde avec vos 40 millions
oui, ». J'ai mis ça sur Facebook.
Moi. Oui, mais oui. Et parce que l'argent n'a pas d'intérêt, l'argent c'est pour les cons. Et
Ça sert pour enregistrer les disques, acheter du matériel aussi. Hein.
Sauf si on croise...
Payer des musiciens.
Alors,
dans
moi,
voilà.
Moi, j'ai
des gens comme Christophe Magdalene.
Moi, j'ai un grand grief
avec
la musique business, parce que c'est toutes les modes sont faites pour faire fonctionner des espèces de multinationales. Il y a des gens qui en ont profité, et puis c'est pas d'aujourd'hui. Notamment dans la musique classique, on parlait de certaines personnes.
De Karajan.
Ah non, mais j'ai rien dit, moi. Hein.
C'est nous qui le savons.
C'est moi qui le dis.
Oui, qui a un catalogue
énorme.
Monstrueux. Voilà. Pourquoi aller chercher la plus petite œuvre merdique de Mozart pour la mettre sur un album? Le Mozart, il a écrit je ne sais pas combien de milliers de pièces. On va toutes les mettre sur les albums, alors. Même les merdes. Voilà. En quoi merde?
Ça dessert la musique.
Mozart a fait ton coup merde.
Oui.
Ça dessert la musique.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Et en même temps, il y a de grands artistes qui restent méconnus, qui n'ont pas d'argent, qui meurent dans la misère, alors que ces gens-là.
Mais ça, malheureusement, on le retrouve aussi en peinture, dans plein de domaines artistiques. Hein. C'est vrai. On peut bien sûr le regretter amèrement, mais c'est aussi une des réalités.
1991, donc.
À peu près. Hein,
à peu près. Hein. Entre 89 et 92.
C'est aussi notre hymne, nous, à la radio. Hein.
Bah, bien sûr.
Tous les matins, on ouvre avec ça.
Vous composez ce morceau.
Tu sens la vague qui arrive, là.
Yeah.
Vous vous souvenez comment cette mélodie est née, comment cette introduction est née de Corsica?
Alors, Corsica, bon, comment la mélodie est née, je l'ai travaillée avant de faire la musique, avant de mettre les paroles dessus. J'avais envie de... Je connaissais tellement bien la voix de Pedro Guelfucci, qui a une voix tendue, haute, comme ça. J'ai imaginé qu'il y avait cette note.
C'est la première chose qui est venue.
Faire évoluer dessous une évolution harmonique, pardon, je donnerais ça. Ça, c'est la basse. Inosco,
nous dit le monde. Et fallait comme ça, comme une boucle pour pouvoir laisser la voix tendue.
C'est pas la boucle, c'est l'évolution en dessous, ça fait. C'est toute l'harmonie qui se resserre comme ça et la voix qui se
reste tendue,
qui reste tendue au-dessus. Après, bon, comme je disais tout à l'heure, le requiem de Forêt, le thème de violoncelle du début, c'est Forêt m'a beaucoup inspiré pour l'ambiance de cette partie de violoncelle du début. Voilà.
Vous attendiez, pardon Marie de vous interrompre, vous attendiez un tel succès.
Je n'ai pas dit un mot.
Non, mais vous alliez, pardonnez-moi. Mais à ce que ça devienne une chanson culte, iconique, je ne sais pas comment on peut dire, on peut la qualifier, mais.
Un hymne,
effectivement, voilà, c'est le terme le plus juste.
Si on savait que ça allait devenir un hymne, on ferait une.
Oui, non mais.
Je sais pas, moi, c'est complètement bizarre cette question.
On ne le ferait pas, on aurait trop peur.
Oui. Non, mais ils ont fait des hymnes avec des.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous terminez cette mélodie, ouais. Vous sentez qu'elle peut.
Alors, je sens qu'elle est pas mal. Quoi.
Voilà, c'est ça tout. Quand même.
Après,
voilà.
La réaction de Pedro, quand il entend.
Pedro.
Chante voilà. Tout. Hein.
Pedro Guelfucci.
Il a entendu ça, je lui ai dit ce que je pensais pour la mélodie, tout ça. Il me dit, ouais, c'est bien et tout. Et on a discuté qu'il fallait un thème un petit peu universaliste, en même temps qui nous appartienne à nous. Oui, un thème un peu universaliste, mais en même temps qui soit le nôtre. Quoi. Ouais. Et voilà, c'est. Après. Oui, ça lui a beaucoup plu et on a fait évoluer un petit peu ça après avec un refrain, etc.
Est-ce qu'il y avait un autre chanteur qui aurait pu l'interpréter comme il interprète lui finalement? Je ne sais pas, je pose la question.
Bien sûr, il y a Patrick Fio.
Il y a plein de gens qui ont essayé, même des gens ici. Hein.
Alors Bull. Moi j'ai trouvé, il y a le petit Pedro Bracci qui l'a chanté à The Voice.
Ah oui, j'ai vu.
Et je trouve qu'il l'a très bien chanté, je lui ai dit d'ailleurs.
Interprétation remarquable de Pedro Bracci dans The Voice, il faut le signaler, vous avez raison de le dire, parce que c'était un moment...
C'est l'une des rares qui tiennent la route.
C'est ça,
je suis tout à fait d'accord.
D'autres, c'est...
Très très belle interprétation. Et Doria Housset l'a très très bien chanté.
Je la connais pas.
Avec Christophe McDaniel, et la version est très belle, et c'est dans Incanto, et je ne le dis pas parce que vous êtes là. Vous avez trouvé.
Oui, dites-moi.
Une petite pépite.
On se posait la question. Je pense ne pas m'être trompé, mais vous avez connu, vous, Félix Cuiligi.
Oui.
Ah, même très bien.
Bien sûr, très bien.
Voilà.
Je vais vous raconter une anecdote. Mais
c'était pour ça, justement.
Alors, avec le groupe Rials, c'est Diago Moutière qui nous dit, il y a les journées de l'université d'été à Corté, il faudrait qu'on aille présenter ce que vous faites, etc. Et on se retrouve donc aux journées d'été de l'université de Corté, avec nous. Il y avait, je ne sais plus, il y avait Paulette qui était là, il y avait Félix Cuiligi qui présentait la Cédra à l'époque. Bon, donc. Et donc, c'était complètement étrange parce que il y avait le mariage de notre tradition même d'avant-hier, avec notre musique à nous qui était complètement débridée et qui, voilà. Mm. Et c'était très étrange, quoi.
Alors dans l'extrait, enfin, on va écouter un extrait, c'est une monodie, ça n'a rien à voir avec votre musique, l'intérêt c'est que ça a été enregistré par Félix Cuiligi, c'était à Piobeda en 1961, Pierre Grimaldi, à l'époque surnommé Pedro Herbudo, et il chante une chanson traditionnelle, Amor te Viligone, mais c'est une interprétation, alors de mon point de vue, on dirait du flamenco, écoutez.
Il vient à bord, la musa brifane, la canzone, mi ritro in la voglia, di moro in l'albidrone. Cristo es consolado que ya muerto Virgone.
Alors on est loin de Stravinsky, mais qu'est-ce que c'est beau, enfin je sais pas.
C'est magnifique, d'abord.
Oudo Barret, c'est.
Alors bon, moi j'ai été baigné là-dedans aussi.
Aussi, ouais, c'est pour ça, ouais.
Aussi, mon père, il partait avec Félix Cuil, il avait un Revox.
Et un enregistreur.
Oui, un gros magnétophone à bande. Et il partait avec Félix Cuil, gigante des fois. Et voilà.
Il n'y a quasiment plus personne qui chante comme ça. Enfin.
Il y en a certains qui ont ce style.
Oui, voilà, la guille, elle y est, mais...
Oui. Il y a des jeunes qui sont pas mal. Si vous
non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons chanteurs, loin de là. Et puis, Dieu merci, il y en a beaucoup, mais sa manière à gauchetie, ça se perd aussi, parce que ça correspondait à un état d'esprit, à une vie, à un temps, et voilà. Donc,
oui, bien sûr.
Mais c'est ça qui est magnifique, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous... Vous positionnez à ce moment-là, on est dans les années 73-74, avec votre musique, donc de jeune, avec tout votre passé, c'est votre culture, votre père qui accompagne Félix Quidditch. Comment vous vous positionnez à ce moment-là? Vous aviez envie d'aller de l'avant, vous aviez envie.
Mais oui, mais c'est pas aller derrière de prendre des références pareilles. C'est même très, ça peut être très innovant. On parlait de Stravinsky tout à l'heure. Stravinsky, il est allé pêcher ces trucs dans des sonorités indiennes, je ne sais quoi. C'est toujours... Et comment dire? Mais ça fait partie tellement de nous. Bon, moi, je suis un métis. Hein, je dis toujours, je suis un mulâtre. J'ai un côté américain avec mon père et un côté corse avec ma mère. Mais moi, je sens ça comme quelque chose qui
ça prend, hein.
Ah oui, exactement, oui, qui m'émeut, quoi. C'est...
Tout comme je fais une parenthèse, la voix de d'Omégalé, qui était une voix particulière, qu'on le veuille ou non.
Oui.
Mais pareil, c'est quelque. Dès qu'on l'entend, ben, je sais pas, il se passe quelque chose dans le corps. Voilà, c'est du domaine de l'émotion.
Alors, moi, je trouve que dans les voix, il y a des magies. C'est terrible. Il y a des gens qui ouvrent la bouche. Et on est ébahis de ce que ça peut nous faire ressentir.
Allez-y, Marie, ouvrez la bouche.
Voilà.
Non, mais c'est assez incroyable ce que vous dites, c'est qu'en réalité, comme tout ça faisait partie de vous, on se pose même pas la question quand on compose ou quand on arrange ou quand on fait de la musique.
Moi, je pense qu'il faut pas se poser les questions. Parce que si on commence à réfléchir à tout ce qu'on fait, on n'est pas musicien, on est un calculateur, on est un métronome, on est un mathématicien. Si on veut vraiment faire de la musique, il faut oublier tout ça, je pense.
Alors, on a retrouvé un extrait, Jean-Charles, un extrait de Rial,
on en parle depuis le début de l'émission. C'est l'occasion d'en écouter quelques notes, enfin un petit morceau. C'est 1978, je crois que le titre c'est Rigir, si je ne me suis pas trompé.
Ça a été enregistré en 78.
Voilà. On a cité donc les frères Rennes. Ce morceau dure, je crois, 16 minutes. Oui. À la fin, il y a même votre cousin qui chante, il y a même une femme qui chante aussi. Oui. On va juste écouter le début pour se donner une impression, enfin pour avoir une idée pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est quelque chose de 1970, mais qui est très actuel, hein.
Un extrait de Rialto. Alors bon, on sent les influences.
Ceux qui ont gardé le 33 tours, il a une certaine valeur actuellement, hein, ouais, sur les marchés parallèles, c'est vrai.
On a dit pas de business avec la musique.
Non, mais c'est la preuve que finalement c'est avant-gardiste et de qualité.
Bien sûr. Et puis on sent toutes les influences des groupes, les Floyd, Magma. Ouais. Et puis le traditionnel avec ce violon qui entre. Ouais. Bon, c'est absolument dément et génial. Et nous le devons entre autres à Christophe McDaniel.
Il n'y a pas un projet de reprendre tout ça, non?
J'aimerais bien, mais bon,
mais après Doumé,
j'y ai pensé.
J'aurais ça un festival.
Serait complètement...
À Tchardilou, enfin, il y aurait des...
complètement énorme. Christophe, McDaniel, nous allons nous quitter.
Jean-Charles,
le temps passe vite, et puis on a une vie. Après la radio.
On va écrire de la musique.
Et finalement, vous avez peu joué. Est-ce qu'on se quitterait pas en musique?
Je sais pas, si vous voulez que...
Ce que vous voulez.
C'est un peu de compression là, non? Enlève-la.
Sans l'ingé son.
Ah ben, il est musicien, l'ingé son, fait tout.
On vous remercie, Christophe McDaniel, d'avoir été notre invité dans Toc Toc. C'était un vrai plaisir, merci Jean-Charles Marcy.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci.
D'avoir
réalisé cette émission. Mesdames et messieurs, c'était le Toc Toc de Christophe McDaniel.
Au consortia dorada, dall'oscura prigione di Bastia. Con la mia ben amara, scriverti voglio rime in poesia. Con l'amaro cordoglio, mio ben addolorato in questo voglio. Io sono incarcerato, richiusi nell'antica sepoltura, tra i ferri e lacerato, son divenuto una morte in figura. Piangendo il poverino, la cruda sorte, il barbaro destino. Mi sveglio al fa del giorno, al murmuro giugondo di la gente. In tarazza ritorno, da contemplare i violi e la ruggeli. Quel vali e colline, quel ricchi e manivichi confini.
La main du dottore Battesti, on salue. Non, c'est Michel, ça.
Antonino Lomijano.
Chanté par Miguel Baoli, voilà. Ouais. On salue aussi.
Merci.
Voilà, donc ça veut dire que un morceau comme ça, un chant, on peut le travailler, on peut faire des choses dessus.
À la quête, j'arrête.
Un petit peu.
Ça m'énerve. Allez, on s'embrasse et on se dit à la prochaine.
Allez.
France Bleu RCFM.